Lindley, transfiguré.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
On ne l'entendait jamais venir, ses livres toquant à notre porte sans bruit, se faisant une place dans notre cocon en y plantant une légère inquiétude. Car depuis Un si tendre vampire, son premier roman, on savait que les voix chuchotantes comme la sienne étaient inquiétantes. Née au Vietnam en 1963, dès le lycée français de Saïgon, Lindalès se sera immergée tout entière sur une terre d'absolu littéraire. Régulièrement primée, citons le prix Renaudot du livre de poche pour « À l'enfant que je n'aurai pas » et traduite en plusieurs langues, cette romancière disparue brutalement en mai dernier avait l'art de la présentation. Parce qu'elle fuyait les médias, elle disait qu'elle était comme un ours qui se terre. Nous avions eu un plaisir intense à la recevoir en mars 2021, elle et sa petite frange brune, piquante, tremblante de mots. C'était au moment où elle publiait un livre sur les 7 péchés capitaux, toutes les colères du monde, un autre sur la déraison d'une mère récemment disparue intitulée « Je ne répondrai plus jamais de rien ». Et après le « Bonjour Lindley »,
bonjour,
je lui disais « Très heureuse que vous soyez sortie de votre grotte ». Dites-nous un peu, est-ce que c'est la compagnie des hommes que vous fuyez ou celle des livres que vous recherchez ?
Oh, je ne fuis pas du tout la compagnie des humains. Mais il est vrai que je cherche beaucoup la compagnie des livres et écrire, cela me paraît deux activités qui vont de pair et je passe certaines nuits à lire ou à écrire.
Par amour de l'évasion, de la liberté, de la fiction ?
De l'évasion, non, je dirais peut-être l'ailleurs, mais dans le sens non pas de l'évasion justement, mais l'ailleurs dans le sens absolu presque du terme. C'est pour reprendre le mot de Baudelaire, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Je cherche toujours cela dans les livres. La nuit est propice à cela.
J'imagine que c'est la musique de Henri Purcell qui vous enveloppe, Lindley, mais pas seulement, les paroles aussi. « Oh, que j'aime la solitude, que ces lieux consacrés à la nuit plaisent à mon inquiétude. » Le plaisir de l'inquiétude, ça vous parle, ça?
Oui, c'est une musique de circonstances. C'est toute la différence entre la pesanteur de l'isolement, surtout quand il vous est imposé, l'amour de cette solitude qui n'est pas la fuite, mais c'est savourer le moment où l'on se retrouve en tête à tête avec les livres ou avec les mots.
C'est une habitation volontaire.
Oui.
Est-ce que cette musique baroque pourrait être la musique de votre nouveau roman?
Je ne pense pas, non.
Non?
Non. Non.
Ce serait quoi la musique de votre nouveau roman?
Celui à venir ou celui...
Celui dont on va parler, je ne répondrai plus jamais de rien.
C'est une musique plus sombre, peut-être les partitas de Bach.
L.
L comme leitmotiv.
Après ta mort, je suis retournée à Elsener en compagnie d'Adrien. C'était l'automne. Soudain, alors que nous marchions dans les rues, il m'a semblé entendre l'air s'emplir de ta voix. Je ne répondrai plus jamais de rien, de rien, de rien. J'ai serré plus fort la main d'Adrien dans la mienne. J'ai murmuré que tu étais là, tu virevoltais autour de nous. Il s'est arrêté au milieu de la rue pour me prendre dans ses bras, posant un doigt sur ma bouche. Chut, nous n'étions traqués ni par le spectre d'Unica, ni par ton fantôme. J'ai retenu mes larmes. Que tu sois parti pour le grand nulle part ou que tu t'attardes encore aux frontières du non-être, tu as décidé depuis longtemps de ne plus répondre de rien.
Merci pour cet extrait qui n'est autre que la dernière page de votre roman, Lindley, qui vient de paraître, enfin paru il y a quelques mois chez Stock, et qui s'intitule « Je ne répondrai plus jamais de rien ». Pour quelle raison?
Cette phrase m'est venue un matin comme ça, et j'imaginais le personnage d'une femme qui, non pas démissionne, mais... se dit qu'elle largue les amarres. Elle qui a toujours été prévenante, attentionnée pour tout le monde, se dit que cela suffisait en somme. C'est sa fille qui parle, qui se souvient du moment où cette femme meurt après avoir dit qu'elle ne répondra plus jamais de rien.
C'est donc l'histoire effectivement d'une narratrice qui recueille cette phrase et qui autour de cette phrase va tenter de résoudre une énigme dont on va parler. Ce qu'on essaie de comprendre d'emblée, nous lecteurs, c'est quelle est l'histoire qui lie cet homme qui deviendra le mari à cette femme dont il est dit que le premier jour où elle le voit dans un centre de demandeurs d'asile, elle le perçoit, je cite, comme un chevalier tueur de dragons. Quel est son statut à lui et quel est son statut à elle dans ce centre?
Elle, c'est une réfugiée qui a franchi des frontières au risque, au péril de sa vie. Et elle arrive donc dans ce centre de demandeurs d'asile où elle rencontre cet homme qui, censément, aide tous ceux qui viennent d'ailleurs. Et lui tombe éperdument amoureux d'elle et elle ne s'aperçoit pas vraiment de sa présence Et puis, à partir de là, se tisse toute une histoire où il y a un renversement de situation.
Oui, c'est la narratrice, donc la fille qui mène son enquête dans une sorte de soliloque, comme ça, pour essayer de comprendre en fait la nature de sa mère. Une nature effectivement particulière, très ambivalente, qui, malgré la double vie menée par son mari, a toujours sublimé ce mari, parce qu'elle semble effectivement avoir une dette envers lui.
Parce qu'il a, en quelque sorte, croit-elle, sauvé de la misère, le fait d'être totalement démuni et non pas la solitude dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est la solitude de quelqu'un qui est démuni et qui doit s'accrocher à un chevalier. Cette dette aussi est liée au fait qu'elle a beaucoup d'admiration. Et l'admiration perd très souvent beaucoup de femmes dans leur rapport avec leur mari.
Oui, parce que cette histoire d'admiration, il faut dire que dans ce couple, donc, lui refait sa vie sans se séparer véritablement de sa femme, qui a l'air d'accepter ce deal, comme on dirait aujourd'hui. On ne sait pas très bien pourquoi, puisqu'il y a une souffrance, peut-être même une démence qui s'installe dans ce deal qu'elle subit.
Une démence, oui, et c'est là qu'est l'énigme qu'essaie d'éclaircir la fille du couple. Donc.
Oui, parce que cette enquête sur ce lien à la fois traumatique, de ce lien mère-père, mari-femme, se double d'une enquête sur l'étrange disparition de la mère durant 8 mois, des décennies plus tôt.
Oui, et une chose dont elle n'a jamais parlé. Et petit à petit, en découvrant un livre, la narratrice comprend petit à petit qu'il y a eu une espèce d'épisode de folie. De folie douce au départ, puis presque de démence.
Un épisode qui est planté dès le début du roman, dans ce lieu Elsener, voilà, où il y a une forteresse qui aurait peut-être inspiré Shakespeare en écrivant Hamlet et peut-être l'épisode de la folie d'Ophélie. C'est une première piste littéraire autour de la démence de cette femme. Et la deuxième piste littéraire, c'est effectivement ce roman dont vous parlez. La narratrice retrouve quelques pages de L'homme jasmin, un roman d'Unika Zürn. Racontez-nous quel est cet homme jasmin et qui était Unika Zürn, qui a vraiment existé.
Oui, toute cette histoire de la rencontre de la mère avec une pensionnaire de l'asile psychiatrique tourne beaucoup autour du personnage d'Henri Michaud, qui a inspiré beaucoup d'amour et d'admiration à une femme artiste qui s'appelle Unika Zürn, dont il y a eu récemment une exposition à l'hôpital Sainte-Anne.
Car elle a fait effectivement des épisodes psychiatriques.
Elle était la compagne de Hans Bellmer, qu'on connaît comme étant l'espèce de sculpteur de poupées disloquées. J'ai toujours été fascinée d'abord par ce couple. J'ai entretissé l'histoire d'Unika Zürn et Hans Bellmer et l'histoire de cet inconnu venu d'on ne sait pas vraiment où. Quand à Elsener, Adrien avait fait allusion aux démons qui végétaient dans les environs de Kronborg, j'avais cru voir dans ton regard une lueur inquiétante. Mais j'étais loin d'imaginer ce qui s'était passé des années avant ma naissance, lorsque tu étais encore une belle jeune femme, rêvassante à une vie harmonieuse auprès du chevalier, prête à assainir le fange de la terre. J'étais loin d'imaginer que cette belle jeune femme allait devenir la proie de la folie au point de se retrouver enfermée dans un hôpital psychiatrique. Étais-tu légèrement atteinte ou juste un peu folle? Je ne saurais dire ce que signifie cette expression passe-partout, mais je me dis que oui. Sûrement, tu devais être comme l'étrangère décrite par Unika, une illuminée, certaine d'avoir une mission à accomplir. Quelle mission ? Te reconnaissais-tu dans cette étrangère venue en France pour s'immoler par le feu et ainsi protester contre ce qui était infligé à son pays ? Ou n'évoquais-tu l'illuminé d'unique caserne que pour devenir à son tour le personnage d'un livre, personnage au bord de la psychose, à deux doigts de sombrer dans une démence qu'aucun médecin ne guérirait.
Lindalet, en lisant pour En sol majeur un extrait de Je ne répondrai plus jamais de rien, est-ce qu'on peut faire un lien entre ce voyage au pays de la démence qui donc ensevelit la mère de la narratrice et la tragédie vietnamienne ?
Je pense que beaucoup de réfugiés vietnamiens ont connu des épisodes de démence ou de folie, soit une folie anticommuniste. Ils mettent tout sur le compte de cette guerre où les communistes ont remporté la victoire. Ou alors c'est une folie liée au fait de ne pas savoir s'adapter, de se sentir très étranger.
Au monde nouveau qui surgit.
Au monde nouveau qui est en train de surgir et aussi au pays d'accueil. Oui. Je pense que c'est le lot de beaucoup d'immigrés. La folie, le suicide, comme dans le cas de Marina Svetayeva, par exemple,
poétesse russe,
qui a vécu longtemps en France en exil et qui n'est retournée dans son pays que pour se tuer.
Car sans faire effectivement référence à cette tragédie vietnamienne, il y a effectivement cette phrase que vous venez de nous lire, hein, Lindalet. Te reconnaissais-tu dans cette étrangère venue en France pour s'immoler par le feu et ainsi protester contre ce qui était infligé à son pays ?
C'était une allusion aussi aux bonzes qui se sont immolés par le feu pour protester contre le régime corrompu du Sud-Vietnam. Mais là, il y avait deux tragédies en quelque sorte. Il y a soit ces bonzes, soit des femmes ou des hommes qui sont venus alors que la guerre battait son plein, qui s'immolaient par le feu, pour dire en quelque sorte à la jeunesse occidentale qui à ce moment-là manifestait contre la guerre du Vietnam, pour dire qu'elle incarne quelque chose.
Mmh. Vous, en tant qu'auteur, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans la folie ? Est-ce que c'est l'origine de la folie ou le symptôme même ?
Je pense qu'il y a une fascination autant qu'une sorte d'effroi, parce que c'est le moment où la possession de soi n'est plus totale.
Mmh.
Il y a aussi l'autre aspect, c'est la folie des dissidents politiques aussi. Je me souviens d'un documentaire du cinéaste chinois Wang Bing qui s'appelait « À la folie », qui montre un asile psychiatrique où la plupart des, j'allais dire des prisonniers, sont des dissidents.
Il y a quelque chose d'une vérité humaine là, dans cette perte de contrôle.
Oui.
Est-ce qu'on peut faire un lien, pardon, mais c'est notre métier d'essayer de faire des liens, entre cette mère venue d'un pays lointain jamais nommé et votre propre mère, Lindalet ?
Oui, il n'y a aucun lien avec ma propre mère, ni avec mon père. C'est une vraie fiction.
Mais c'est peut-être une discussion entre vous et la folie qu'une guerre
oui,
peut provoquer.
Oui, oui, oui.
Alors vous savez qu'au pays d'En sol majeur, Lindalet, il y a toujours des notes de musique et parfois des notes de conscience politique, je dirais même. Tu ne pourras pas rester juste chez toi, mon frère, tu ne pourras pas allumer la télévision, te perdre dans l'Hérault et zapper pendant les pubs pour aller chercher une bière, car la révolution ne passera pas à la télé, la révolution sera en direct live. Que représente pour vous Jill Scott-Heron et son « Revolution will be not televised » qui était perçu au début des années 70, je le rappelle pour les jeunes générations, comme un hymne anticapitaliste et pro-mouvement droit civique aux États-Unis.
Oui.
C'est toujours d'actualité pour vous ?
Ah, plus que jamais. Donc, étant donné ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps.
Tu parlais de quoi ?
De Black Lives Matter. Et puis les paroles de cette chanson me sont très chères. Ce morceau est dans un autre livre.
Mm-hmm.
Donc
ça fait partie de vos talismans comme ça.
Oui, voilà, exactement.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised.
Le 30 avril 1975, il y a un coin sur la Terre qui vous intéresse, Linda Lay, un coin où la révolution n'a presque pas été filmée, c'est Saïgon. Ces sons de la chute de Saïgon, peut-être vous y ramènent un petit peu, Linda, puisque vous l'avez vécu, cette chute, sur place ?
Oui, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et dans la famille, il y avait presque deux camps. Parce que ma mère, qui vient d'une famille très aisée, était plutôt pour le régime qui allait être renversé et pro-américain. Mmh. Et mon père, qui venait du Nord et qui avait la nostalgie des luttes de Ho Chi Minh. Et donc, moi qui vénérais mon père, sentais une espèce d'exaltation à ce moment-là pour ce qui se passait. Mais je me souviens surtout de ce qu'on disait sur les hélicoptères, parce que mes parents, enfin surtout ma mère, nous interdisaient de sortir de la maison. Mais ce qu'on disait sur les hélicoptères qui tournaient au-dessus de l'ambassade américaine, mm-hmm, pour évacuer les Américains et ceux qui voulaient se réfugier aux États-Unis, enfin les Vietnamiens qui voulaient se réfugier aux États-Unis. Tout le monde se disait qu'il fallait y aller pour partir. J'aurais pu aussi passer en fait la chanson qui servait de code à la radio à ce moment-là comme signal pour que les gens sachent qu'il va aller y avoir évacuation. C'était White Christmas.
Ah, vous vous souvenez, oui.
Oui, ça passait à la radio et quand on entendait ça, il fallait...
Fuir.
Fuir, oui. Oui.
Mais vous n'avez pas quitté le Vietnam tout de suite?
Non, parce que ma mère était et elle est toujours de nationalité française. Toute sa famille était de nationalité française. Parce que mon grand-père, qui était médecin, voulait absolument avoir la nationalité française. Il avait une passion pour la France. Tout aussi nos études au lycée français, mes sœurs et moi.
Et donc, vous ne quittez pas le Vietnam tout de suite ?
Non, 2 ans après, oui. En étant considérés comme des rapatriés.
À cause de cette nationalité française ?
Oui, alors que, évidemment, nous n'avions jamais vu la France. Ou alors seulement dans les livres, mais voilà.
Et quel sentiment vous avez eu en quittant cette terre vietnamienne ?
Je crois que j'étais très émue de partir, surtout à cause de mon père qui restait, parce que lui était de nationalité vietnamienne. Mais d'un autre côté, j'étais tellement impatiente de découvrir la France, les livres. J'imaginais que j'allais pouvoir aller dans les bibliothèques, me promener sous les arcades de la rue de Rivoli, etc. Enfin, tout ce qu'on se dit quand on est d'ailleurs et qu'on a lu beaucoup les livres, surtout Balzac, quoi, oui. Qui décrit beaucoup Paris.
Oui, parce que on va en reparler, mais vous avez effectivement, vous aviez un peu déjà quitté ce territoire,
oui,
vietnamien pour un autre, celui de la culture française. On n'a pas retrouvé la voix de Victor Hugo ni de Balzac, je suis désolée, Lindalet. Par contre, on a la voix d'Anna Karina. Qu'est-ce qui, oui, vous touche dans cette voix, la voix d'Anna Karina dans
Pierrot
le Fou?
Parce que tous les films de Jean-Luc Godard, surtout les premiers, à vrai dire, m'ont toujours beaucoup touchée. Mais elle, c'est une femme que je trouve absolument extraordinaire, incandescente, libre. J'aimais cette liberté qu'elle avait.
Comme étrange étranger,
et oui, pourquoi et en quoi vous vous sentiez un peu étrangère dans le Vietnam de votre enfance, Lindalet?
Parce que j'étais au lycée français et que tout ce que je lisais avait peu trait au Vietnam. Mais
cette entrée en littérature française suffisait à vous couper d'un sentiment d'appartenance.
Oui, et puis l'éducation aussi de ma mère surtout, qui voulait nous embrigader presque dans le camp de la culture française et de la langue française.
Il y avait interdiction de parler le...
Oui, mais curieusement, maintenant, elle parle que vietnamien.
Très étrange. Vous êtes restée malgré tout 14 ans dans ce Vietnam qui a été fauché par la guerre. 14 ans, je me disais quand même que ce n'est pas rien en termes de vécu. De quoi vous vous souvenez par exemple avant Saïgon et après Saïgon ?
Avant Saïgon, je me souviens des après-midi un peu languissantes, quand la guerre se taisait un peu. Et qu'on entendait, par exemple, la voix des vendeurs de bonbons, où ils vendaient des fruits aussi, des fruits très acides. Et je me souviens surtout de la perte. Je crois que c'est pour ça que je refuse de me souvenir de certaines choses du Vietnam. Je me souviens de la perte du paradis enfantin. C'est que je suis née dans une ville un peu au nord de Saigon, qui s'appelle Da Lat, qui est la ville la plus froide du sud du Vietnam. Il y a eu la guerre et on a dû fuir. On a vu la voiture mitraillée et on est parti en exode d'hôtel en hôtel jusqu'à ce qu'on aille à Saigon. J'avais l'impression d'une errance sans fin. Ensuite, Saigon, l'entrée au lycée français, bien que j'ai fait le couvent des oiseaux avant à Da Lat, ça existe encore.
Oui.
À Saigon, l'entrée au lycée français, et il a découvert des livres français et c'était fini, les livres vietnamiens, la langue vietnamienne.
Mais c'est devenu comme une espèce de Graal. Enfin, c'est une question, parce que lorsque les communistes arrivent au pouvoir, ces livres-là sont interdits.
Plus que cela, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une annonce où on nous demandait de remettre tous les livres prétendument corrompus à un agent de purification culturelle. Donc il fallait remettre tous les livres, Les Misérables, même Les Misérables.
Est-ce que ça a développé votre obsession justement de la culture et de la littérature française, ces interdits ?
Peut-être, oui, d'avoir perdu cela. D'autant plus que tout ce que j'avais donné à l'agent de purification culturelle, je les ai retrouvés plus tard dans une espèce d'endroit où on vendait les vieux livres, des papiers pour envelopper le poisson, des choses comme ça. Donc, il les a revendus, quoi.
Dites-nous un mot, Lindalet, de ce chant que vous nous avez demandé pour en sol majeur sur une composition un peu jazz.
C'est une chanson traditionnelle, en fait, qu'elle a reprise et que Nguyen Le, un jazzman...
Guitariste magnifique.
Oui, je vous en parle parce que je viens de le reconnaître seulement.
Dites-nous.
Que c'était un chant traditionnel...
Vietnamien. Quel effet ça vous fait d'entendre cette langue ?
Oh, ça m'émeut toujours, mais il y a une part de refus, pas de rejet, mais de refus chez moi, comme si c'était perdu pour toujours et que voilà, j'ai suivi une autre voie.
Alors Hélène Cixous, qu'on aime beaucoup ici en sol majeur, dit que l'oubli a une fonction de survie. Si on n'oubliait pas, on mourrait. Est-ce qu'il était vital pour vous de laisser de côté cette langue maternelle ?
Oui, je pense que ça l'était.
Pour quelle raison ? Parce que vous êtes allé loin, hein ? Vous dites même que vous êtes allé jusqu'à tuer le mandarin.
Oui, oui. Je pense qu'à un moment, ça frôlait le dédoublement de personnalité. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait celle qui appartenait au passé, qui pouvait comprendre le vietnamien, et celle qui est allée vers la culture et la littérature française. Et les deux entrent en conflit.
Donc le vietnamien était devenu une langue morte.
Oui.
Ça veut dire que vous aviez comme un projet de transformation intérieurement ?
Oui. Une transformation, presque de transfiguration, je dirais même. Oui.
Alors vous savez, je vais vous confesser une chose, je n'ai pas tout lu Lindalet malheureusement, mais j'ai cru comprendre que votre univers n'avait rien de durassien. Et justement, je me disais, j'avais presque envie de vous demander ce que vous pensez d'un livre comme L'Amant ou de Un barrage contre le Pacifique. Deux livres qui se déroulent dans l'Indochine française des années 30.
L'Amant, je dirais que c'est un mauvais livre qui a été porté au nu.
C'est la critique littéraire qui parle, hein, là.
Un barrage contre le Pacifique. Oui, j'ai aimé ce livre. J'ai trouvé très tranchant, parfois assez dur. Celui que j'aime le plus, c'est Le ravissement de Lolfenstein.
Est-ce que je peux vous demander quand même juste pourquoi L'Amant, c'est un mauvais livre à vos yeux ?
Parce que c'est plein de clichés concernant l'exotisme. Et je comprends que cela fascine les lecteurs occidentaux, mais cette petite, qui n'est jamais appelée autrement que la petite, et puis ce chinois très fortuné, etc.
C'est pas votre truc, hein. C'est presque un cliché sur cette Indochine coloniale.
Oui.
Est-ce que je peux vous faire écouter une réminiscence musicale, Linda Lee? Quelle est cette musique ?
C'est la musique de L'Île Nue, qui est un film entièrement muet.
Film japonais de 1960 de Kaneto Shindo.
Oui, j'ai toujours aimé le film parce qu'il est muet en noir et blanc. Et puis cette musique, parce que c'est une musique de deuil aussi. Le film raconte un deuil. J'ai toujours été une cinéphile, mais ce film en particulier... Mais je crois que nous sommes assez nombreux à aimer.
Absolument. Mais est-ce que cette esthétique, ça se passe dans le Japon des années 60 où la terre est aride et il y a comme ça des allers-retours pour cette famille d'agriculteurs entre le continent et l'île sur laquelle ils vivent pour chercher de l'eau douce en barque. Mais il y a une esthétique comme ça très pure et un imaginaire né quand même sur une terre d'Asie. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous ? Ça parle d'une certaine manière pour vous ?
Oh, ça parle surtout à la cinéphile que je suis. Je trouve que c'est un film d'une pureté absolue. Avec la musique, il y a quelque chose de l'ordre du silence, je dirais pas religieux, mais un silence. La première fois que je l'ai vu, j'avais je sentais un frisson qui me parcourait l'échine. Et pour moi, c'est toujours le signe d'un grand livre ou film ou d'un grand film. Ouais.
Le silence, les deuils, si on rentre dans votre univers littéraire à vous, Linda Lee, des fantômes aussi, des suicides, des corps mutilés, la guerre jamais très loin. Bref, on sent une douleur au bout de votre plume. Quel est le nom de cette douleur ?
Je dirais que cette douleur s'est un peu apaisée. Non pas que je sois en paix avec moi-même ni quoi que ce soit, mais... Il y a peut-être moins de rage folle que j'ai eue, peut-être pas quand j'ai commencé, parce que les trois premiers livres, notamment Un si tendre vampire que vous citiez, je les ai écartés de ma bibliographie.
D'accord. Donc, la mutilation continue.
Oui, voilà, exactement.
Mais est-ce que cette douleur est en lien aussi avec cette transformation intérieure dont on parlait tout à l'heure ?
Oui, cette transformation intérieure et le fait de renouer aussi avec une part de moi-même qui n'est pas forcément la part liée au Vietnam, qu'une part qui est moins dans la rage, comme je vous y disais tout à l'heure. Quoique la rage, c'est un sentiment qui peut être très fécond.
ý bạn, thì cuộc sống của chúng ta có phải là kết quả của sự ngẫu nhiên hay không?
Est-ce qu'à votre avis, notre existence est le fruit du hasard?
Lindele.
Je ne crois pas. Je pense que notre existence est le produit de ce que nous en faisons, c'est-à-dire le lien que faisait Walter Benjamin entre caractère et destin. C'est le caractère qui fait le destin de quelqu'un. Enfin, c'est peut-être un peu présomptueux, il y a plus d'humilité dans le fait de dire l'existence est le fruit du hasard. Moi, je suis plutôt du côté de Walter Benjamin.
Que du côté de Dieu.
Voilà.
Bon, je ne sais pas exactement quel est votre lien à la spiritualité. En tout cas, les éditions du CERF vous ont mis dans leur escarcelle avec 6 autres auteurs majeurs de la littérature française en demandant à chacun de vous de vous emparer d'un des 7 péchés capitaux. Donc, je rappelle pour les oublieux, la paresse, la gourmandise, l'avarice, la colère, la luxure, l'orgueil, l'envie. Et vous, Lindele, parmi ces 7 péchés, vous avez choisi la colère. Pour quelle raison ?
J'ai choisi la colère alors que je ne me mets jamais en colère. Je n'explose pas.
Même avec la rage qui est en vous.
Justement, la rage, j'ai des rages froides, oui. Mais le livre, je pense, il y a toute une partie qui défend la colère. Il y a une partie qui condamne la colère comme étant ce qui vous perd, etc. Mais il y a toute une partie qui défend la colère, selon Leopardi ou Baudelaire, parce que c'est par la colère qu'on se sent humain.
Oui, il y a une forme de vérité aussi dans la colère.
Oui, aussi. Comme exergue du livre, je mets une phrase que prononce un personnage d'un film documentaire qui est c'est une victime du franquisme et qui dit qu'en fait, il a tenu le coup parce qu'il avait la colère en lui. Et c'est ce qu'il définit en tant qu'humain.
Alors, puisque vous faites le portrait de notre humanité, en replongeant notamment dans des récits mythologiques, des peintures, des romans, des chansons aussi, de quelle colère vous vous sentez la plus proche, Lindele ? De celle de Fritz Zorn, Suisse bien-né qui a écrit le fameux Mars, de celle du misanthrope chez Molière ou encore celle des Black Blocs ?
Plutôt de Fritz Zorn, parce que c'est un écrivain d'un seul livre, qui est très proche d'un autre écrivain que j'aime énormément, qui est Thomas Bernhard. Tous les deux vomissent ce qu'ils appellent la bonne société autrichienne pour l'un, suisse pour l'autre. Fritz Zorn, en fait, sa colère éclate le jour où il découvre qu'il a un cancer, et qu'il a un cancer incurable et qu'il va mourir. Et à ce moment-là, il revoit toute sa vie par rapport à sa famille.
Ce cancer, c'est la société bien-pensante de la Suisse de l'époque.
Oui, oui.
Et vous, qu'est-ce que vous vomiriez comme colère ? Sur quoi ?
La justice, je dirais. Le rejet de tout ce qui est autre, tout ce qui est différent, tout ce qui n'entre pas dans une catégorie.
Toutes les colères du monde, les 7 péchés capitaux aux éditions du CERF. Je ne répondrai plus jamais de rien aux éditions Stock. Merci Lindele de votre visite en sol majeur. On va se quitter avec une belle revendication signée Bachung, avec résidente de la République que vous avez programmée en sol majeur. Pourquoi Bachung ?
Oh, parce que c'est un personnage si élégant et que j'aime les chansons à double sens. Et
résident, président. Merci.
Merci à vous.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes fais ce que tu veux. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux.
Une note rock pour se quitter avec du mordant en sol majeur, émission en hommage à Linda Lay, récemment disparue. À réécouter en podcast, bien sûr, sur votre application Pure Radio ou bien derrière votre poste. Ça se passe toujours chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain autour de Valère Novarina.